Mais bonjour à tous. C'est vrai, ouvrons les portes. Et les portes, c'est plein de choses. C'est souvent, c'est vrai, ce qui nous, des fois, nous bloque dans notre cœur, qu'on laisse se fermer. C'est des paroles que l'on ne veut pas entendre ou des choses comme ça. Et ce matin, je vous propose justement de prendre un temps pour entendre la parole de Dieu et la façon dont Dieu parle. Et pour que Dieu parle, on va le voir par vraiment plein de manières. Et on va voir aussi comment on entend ce message. Et puis aussi, on va voir aussi peut-être quelques pistes, façon dont on peut aussi à notre tour propager ce message. Alors je voudrais d'abord commencer par prier. Oui Père, nous voulons nous remettre entre tes mains pour ce matin. C'est vrai que tu ouvres nos cœurs, on te l'a déjà demandé, à ce que ta parole puisse y monter, puisse pénétrer, puisse faire cette œuvre dans nos vies. Nous savons que la parole et l'esprit travaillent ensemble pour nous convaincre de notre situation, pour nous dévoiler les choses. Et ce matin, comme à chaque instant de notre vie où nous sommes en réflexion, nous sommes en méditation avec toi, où toi tu prends des moments pour ouvrir justement nos portes, pour que nous puissions être sensibles à ce message, à ta parole. Et ce matin encore, nous voulons te prier que tu nous parles à chacun, et à moi le premier, vraiment que tu me donnes cette acceptation vraiment de ta parole qui est, quand je le vois, quand je lis, et quelle résistance des fois je mets à rentrer dans tes promesses et dans tout ce que toi tu veux nous donner. Sois béni encore ce matin, Père. Amen. Parce que quand on considère l'ensemble vraiment de l'histoire biblique, le fil vraiment conducteur que nous avons donc du début et à la fin, c'est la parole de Dieu. Bon, c'est pas un scoop, mais si je dis la parole de Dieu, c'est dans le sens vraiment que Dieu parle. C'est Dieu qui parle. Dieu lui-même. Et ça, c'est un peu Jean qui nous fait, au tout début de son évangile, qui nous dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et puis cette parole, elle a accompagné la création, puis après elle a accompagné les hommes, les créatures, elle a accompagné son peuple, et jusqu'à aujourd'hui, où Dieu est toujours le même. Il parle, et même depuis, il souhaite même que nous, on parle aussi à notre tour avec lui. Et puis, bien sûr, de lui autour de nous. À la suite du chaos initial, donc avant la création, il n'y a pas eu la création fruit du hasard. Hein. Et puis finalement, toute cette magnifique harmonie que les progrès de la science nous permettent de contempler, elle ne s'est pas établie toute seule. Non, déjà la création était la conséquence de la parole de Dieu. Dieu a parlé une vingtaine de fois, on le voit dans la Genèse, et après chacune de ces paroles, l'objet même de ces paroles a existé. Donc le but de la création, ce n'est pas seulement d'être finalement le support qui nous est donné à nous, ces créatures, pour profiter à notre guise de toutes ces bénédictions et de toutes ces merveilles que l'on peut contempler. Bien sûr, la création est le moyen de percevoir l'œuvre de Dieu, mais non seulement cela, elle est le moyen de connaître Dieu. Et plus particulièrement son message d'ordre et d'harmonie qu'il a souhaité nous laisser. Jean-Paul, il y a quelques semaines, a abordé ce sujet en citant les premiers versets du psaume 19. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains. » La création, elle est pour nous finalement comme un livre qui nous raconte et nous fait connaître ce qui est Dieu. Dans Romains 1, il est évoqué la situation des hommes en général qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et bien que, on le voit, que se manifeste sa puissance éternelle de façon claire et sa divinité, il nous est dit comme ça, et sa divinité par le moyen de tous les ouvrages que Dieu a écrit par la création. J'en profite pour noter qu'un ouvrage est tout aussi le résultat d'un travail, aussi qu'un livre, porteur d'un message. C'est d'ailleurs comme cela que le comprennent tous les artistes qui font preuve dans leur création, dans leurs œuvres, justement, de créativité toujours plus débridée dans leur réalisation. Que ce soit par des ouvrages littéraires, que des œuvres musicales, des films, des tableaux ou des sculptures, ces artistes nous laissent entrevoir leur message ou leurs préoccupations du moment. Et finalement, n'en est-il pas de même de Dieu, qui par sa création si diverse et admirable, a désiré dans le plus profond de son cœur nous transmettre son message de paix et d'amour vital à nos vies. Alors on peut peut-être penser que comme nous n'avons pas tous la même sensibilité devant les œuvres des artistes, il est donc normal que nous ne soyons pas tous sensibles au message de Dieu. La différence entre Dieu et les artistes les plus prestigieux, c'est que ces derniers se sont bien souvent spécialisés au mieux dans un nombre vraiment très limité de domaines ou d'art. Mais pour Dieu, sa perfection globale, soi-disant invisible, se manifeste aussi bien par les couleurs, les formes, la lumière, les bruits, les odeurs, et j'en oublie. Et donc nous pouvons donc être sûrs que la sensibilité de chaque homme ou femme peut être touchée par ce moyen. Et tous sont donc inexcusables s'ils ne reconnaissent pas en Dieu le Créateur et le porteur du message que nous laisse justement la création. La perfection de Dieu est finalement tellement évidente qu'elle en devient invisible. Et là, il y a encore un paradoxe. Combien d'artistes, ils œuvrent des fois beaucoup plus que 6 jours pour transmettre leur message par leurs arts, et ils sont satisfaits si des visiteurs déchiffrent leur message, tandis qu'eux ne discernent pas celui de leur créateur. Donc voilà dans le moyen que Dieu a choisi dans un premier temps pour se révéler et pour sensibiliser les hommes à son message. Car la révélation, je dirais, générale de la création fait prendre conscience à l'homme, à tout homme, de l'existence de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu tient tous les hommes pour responsables en cas de refus de le reconnaître dans ses ouvrages. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Avec l'endurcissement de leur cœur, les hommes ont peu à peu négligé, voire méprisé ce message, et finalement ils ont fait des choix de vie qui étaient contre nature. Et là, à partir de là, Dieu un peu a changé de fusil d'épaule, si je peux dire, et il s'est porté plus spécifiquement sur des hommes et puis sur un peuple avec lesquels il a entamé une relation privilégiée pour y laisser des textes clairs, la loi. Et là encore, par la manifestation de la gloire de Dieu en faveur de son peuple, les peuples païens avaient la possibilité de connaître Dieu. Et à aucun moment dans tous les célèbres hommes de Dieu de l'Ancien Testament, et plus particulièrement les prophètes, ne parlaient et ont écrit comme ils le voulaient. En fait, les prophètes écrivirent parfois sans vraiment comprendre, mais ils restèrent fidèles à ce que Dieu leur révélait. Ainsi Dieu parlait, plus généralement dans la création, mais parlait pour un peuple, parler pour des hommes. Et ce qu'on lit dans Hébreux 1, verset 1, donc après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lui. Il a aussi créé l'univers. Et si on continue donc cette histoire, l'histoire se répète malheureusement, compte tenu de la dureté du cœur humain, les hommes n'ont pas reçu et compris le message de Dieu transmis par les messagers que Dieu s'était choisi. Et c'est pourquoi, en dernier recours, Dieu décide d'envoyer son Fils pour nous parler. Alors on peut rentrer un peu dans la, dans la pensée de Dieu à ce sujet, lorsqu'on parcourt la parabole et on lit la parabole des vignerons, c'est dans Matthieu 21, et dans cette parabole, Jésus décrit justement cette situation où le maître de la vigne envoie par deux fois des serviteurs pour récupérer le fruit de la vigne qu'il s'est acquise. Et par deux fois, les vignerons maltraitent durement ses serviteurs. Et en dernier recours, pensant vraiment que les vignerons respecteront son fils, le maître envoie justement son fils, mais malheureusement là encore, ils ne se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Alors bien sûr, ici, Jésus annonce sa mort prochaine, et cela pourrait présager la fin de la parole de Dieu. Tout est fini. Le porteur de la parole, qui est mort. Quel espoir! Et ça, c'est pas vrai, c'est rien de tout ça. À l'image de la graine qui doit mourir en terre pour pouvoir germer, vraiment la mort de Christ, c'est la prodigieuse opportunité qui est donnée à Dieu pour se manifester à toutes ses créatures individuellement, et non plus à un seul peuple. Comme le dit Paul aux Colossiens, la parole de Dieu peut être maintenant pleinement annoncée. Colossiens 1, verset 25, « J'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alors nous en sommes là, dis donc. Ce message qui était devenu mystérieux, il est maintenant révélé à ses saints. Car c'est vraiment ainsi que Dieu le voulait. Désormais, Dieu se révèle individuellement dans le cœur de chaque homme. Et ceci justement grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille pour laisser le Saint-Esprit convaincre le monde de son péché. Et comme le redit Paul dans un peu plus loin, dans l'Épître aux Corinthiens, au verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Ainsi, toute la sagesse de Dieu est devenue un mystère. Et pour les Juifs, qui étaient pourtant les premiers et les mieux informés, et malgré le fait qu'ils sondaient ce mystère avec leur vue, avec leurs oreilles, avec leur cœur même, ces choses n'ont pas été réalisées pratiquement. Et ceci justement parce que c'est le Saint-Esprit qui fait la grâce de la révélation. Comme c'était déjà le cas quelquefois, vraiment de façon ponctuelle dans l'Ancien Testament, avec les hommes de foi. Le Saint-Esprit est donc à l'œuvre dans notre cœur. Il se met à la disposition pour que la révélation de cette parole ne se limite pas à une compréhension humaine, même aidée par notre propre sagesse, qu'elle soit la plus brillante possible, mais plutôt que cette parole se transforme en parole vivante. C'est Matthieu, je crois, dimanche, lors des témoignages, qui a dit sa difficulté à faire descendre dans son cœur ce qu'il avait entendu dans sa tête. Mais on a, je crois, tous vraiment le gros problème, et c'est le problème du chrétien, ça. Mais il y a des solutions. Dieu ne nous laisse pas comme ça avec nos problèmes. Laissons œuvrer le Saint-Esprit qui veut là œuvrer dans notre cœur. Alors bien sûr, on a grandi, on a été éduqué avec un modèle de pensée qui met en avant nos capacités physiques et intellectuelles. Et il me semble que pour entendre cette parole et connaître Dieu, on a à nous détacher de cette soi-disant sagesse humaine. Paul, lui, qui considérait que toute sa culture et sa grande connaissance étaient un gain, finalement, il a convenu qu'il fallait considérer ça comme étant une perte à cause de Christ et de sa révélation. Quelques versets après le passage du 1 Corinthiens 2, Paul annonce aussi cette autre vérité, le verset 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons combien l'Évangile peine à rentrer dans les cœurs. Et même parmi les enfants de chrétiens qui ont été pourtant mis en contact avec le message de l'Évangile dès le berceau, nous le savons, le fait de grandir sur les chaises de l'Église n'est pas la garantie d'une vie chrétienne épanouie, car il arrive que notre culture, tellement orientée vers les besoins de l'homme, affaiblisse ce message de l'Évangile. Et la conséquence est que l'appel de Dieu dans les cœurs peut être finalement rendu inaudible. On n'entend plus. Et ça a beau l'entendre dans les oreilles, on a beau chanter, mais ça reste là et ça ne descend pas au cœur. Alors justement, pour nous, ces enfants, il est vraiment vital que cette parole de Dieu descende jusqu'à notre cœur. Enfin, je dirais plutôt monte à notre cœur. Je crois que c'est comme ça que c'est dit. Évidemment, c'est le Saint-Esprit qui opère cela dans les croyants, en leur donnant la faculté de discerner la vérité divine. Cela ne veut pas dire que nous sachions tout ou que nous n'avons pas besoin de prières et d'études de textes personnels. Mais encore, au-delà de ça, on a encore besoin de nos frères et sœurs. On a besoin de ces moments ici à qui le Saint-Esprit, par l'exercice des dons spirituels, fait la grâce de nouvelles révélations par les uns et par les autres. C'est pour ça, ne soyons pas timides. Le Saint-Esprit nous révèle des choses, et elles ne sont pas seulement pour vous, mais elles sont pour chacun d'entre nous, et puis pour que notre édification puisse voir le jour. Laissons donc œuvrer le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de niveau scolaire ou de niveau de culture. Si nous avons des difficultés à comprendre le message de l'Évangile, cette parole, c'est tout simplement que nous sommes encore trop sensibles aux interférences qui nous environnent et un peu moins au Saint-Esprit, qui pourtant ouvre notre intelligence en ce qui concerne la parole de Dieu. Et ça, il le fait inlassablement. Oui, cette parole est là, elle est vivante. Et c'est elle qui décide de tout, de ce qui se passe dans le monde. Alors comment ne pas l'entendre et passer à côté de ce message de vie? Et ça, c'est malheureusement possible. Et le Seigneur nous en donne une illustration avec la parabole du semeur, dans laquelle il y a trois cas où cette parole ne donne pas le fruit promis, malgré le fait que la parole a bien été semée. Alors, on ne va pas prendre le texte maintenant, mais vraiment, je vous encourage à méditer ce texte dans Marc 4, chez vous, et que vous sondiez dans quel domaine de votre vie cette parole n'arrive pas à croître normalement. C'est une parabole dont notre Seigneur a donné une interprétation. Donc il n'y a aucune ambiguïté là. En comparant la parole à une semence dispersée sur un terrain, Jésus aborde dans son enseignement ce qui fait obstacle à l'œuvre de la parole sur le terrain de nos cœurs. Alors qu'on soit pour la première fois en contact avec la parole de Dieu, ou que l'on soit plus habitué à la lire, il nous arrive malheureusement de laisser un ou plusieurs terrains de notre cœur inaptes à recevoir une parole qui nous est pourtant destinée. Ainsi, un verset, une parole auront pu être entendue et aussitôt oubliée, sans qu'elle ait commencé une transformation dans le cœur. C'est comme c'est le cas dans la parabole lorsque les oiseaux, qui sont l'image de Satan, qui enlèvent la semence qui est tombée au bord du chemin. Ou bien nous recevons un encouragement dans un moment difficile, cela correspond à la graine qui tombe dans un sol pierreux, et nous recevons cette parole avec joie. Le Saint-Esprit commence bel et bien son œuvre de transformation dans notre cœur, et il arrive une nouvelle épreuve. À cause de la parole, c'est dit justement. Et ça, c'est peut-être la cause, à cause de nos différentes interprétations, nos subtiles disputes au sujet de la parole. Et on prend ce prétexte-là pour tout arrêter. Ou bien encore, nous attendons bien volontiers le message de l'Évangile, mais nous recevons tout aussi volontiers les appels des sirènes de ce monde. Et tout comme les épines qui étouffent la plante qui commence à croître, cette vie que le Saint-Esprit a insufflée peut être rendu stérile par toutes les séductions dont nous sommes victimes. Alors, à part le cas où c'est le diable qui enlève la parole avant qu'elle entame son travail dans le cœur, dans les deux autres cas, il y a bel et bien le mystère de la vie qui commence, une œuvre de transformation de la graine en plante. Mais finalement, dans les trois cas, le résultat est le même. Il n'y a pas le fruit tant escompté. Et heureusement, dans l'immense grâce de notre Seigneur, il y a des secteurs de nos vies qui sont prêts à recevoir cette parole jusqu'à ce qu'elle porte son fruit. Et on avance comme ça, en déblayant le terrain qui est peut-être un peu plus pur d'un endroit et un peu plus pollué dans l'autre. Mais peu à peu, justement, pendant que sa parole prend racine, le terrain qui est notre cœur est purifié justement de sa nature de péché. Ça, c'est un peu comme le fumier que l'on met dans les plantes, dans le terrain. Et peu à peu, ce fumier-là, il est pompé au fur et à mesure que la plante grandit. Le fumier est pompé par la plante. Et en même temps que la plante pompe le fumier, ben, la terre est purifiée. Et jusqu'à ce que le fruit, ben, porte, la plante puisse porter le fruit et amener à la moisson. Et ça, quelle preuve encore une fois de plus de la grâce de Dieu qui surabonde là où le péché abonde. Vraiment, imprégnons-nous de cette vérité, que la grâce de Dieu vraiment soit sur nous. Donc on arrive au dernier point, au sujet de la façon dont nous transmettons à notre tour le message de Dieu. Et vraiment, là, on peut encore vraiment s'interroger sur la stratégie de communication du Créateur. En effet, les modèles de communication mettent en avant des outils, des compétences humaines reconnues pour favoriser la compréhension des messages. Mais pour Dieu, ce qui compte, c'est que son message pénètre les cœurs. Et ce n'est pas parce qu'un sujet sera brillamment exposé ou intellectuellement compris qu'il touchera les cœurs. Au contraire, s'il est seulement compris intellectuellement, il entraînera une forme de religiosité avec le risque d'évoluer vers un comportement légaliste, voire sectaire. C'est Isaïe 29, verset 13, qui évoque cette conséquence d'effleurer seulement intellectuellement ou culturellement la parole de Dieu. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Précepte, donc, dans le sens, je crois, d'ordre, de règles, de tradition humaine. Non, la stratégie de communication de l'Évangile voulue par notre Sauveur est basée sur les choses folles, les choses faibles, les choses viles de ce monde, nous dit la première épître aux Corinthiens. C'est dans la continuité de sa venue à notre rencontre, ça. Il est venu en simple homme, né dans une crèche, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça, c'est Ésaïe 53 qui rappelle cela. Paul nous dit qu'il annonce l'Évangile sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Paul va encore plus loin quand il dit, dans 2 Corinthiens 2, verset 15, « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Parfum, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. C'est déconcertant. Ça nous prend tout à l'envers de notre logique, ça. Alors que Jésus est venu pour attirer tous les pécheurs à lui, lui, il n'a visiblement mais rien pour leur plaire. Et au contraire, il place nous, ses enfants, parmi eux. Ah, des bons petits gars! Pour leur laisser une odeur de mort, donnant la mort. Est-ce que vous êtes conscient, vous, de l'odeur que vous laissez à ceux qui périssent? Et peut-être que vous êtes mal à l'aise avec ça. Moi, je ne vous cache pas, je le suis, et très souvent. Alors, j'ai des moyens d'être mieux à l'aise. C'est-à-dire que j'essaye de désodoriser la place. J'évite que le message de l'Évangile, finalement, soit trop choquant pour moi et puis ceux qui m'écoutent. Non, non, c'est la parole de Dieu qui parle, c'est pas moi. Tous nos efforts pour édulcorer son message ne feront que l'humaniser et lui ôteront sa puissance. Ce qui est pourtant plus que tout, c'est que la parole monte dans le cœur de l'homme pour le guérir. Et cela, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ce qui est important, c'est plus que la parole soit annoncée sans compromis que par qui et comment. Car nous sommes tous appelés à annoncer l'Évangile, que ce soit par la proclamation de sa parole ou par nos œuvres qui témoignent de notre proximité avec notre Seigneur. De plus en plus, notre attachement à la parole est bafoué à cause des orientations que la société prend et qui sont contraires aux lois de Dieu. Le résultat, il est vraiment que nous sommes sous pression. Et pour ne pas être de vitesse, on a ce défi-là à relever. Et ce défi qui se présente à nous dans ce contexte, il est de continuer à annoncer ce message intemporel de Christ. Et c'est ce que nous voulons continuer de faire, tout en le faisant d'une manière aussi qui soit appropriée à une culture en constante évolution. Alors ce matin, le Seigneur nous encourage, il m'encourage à ne pas avoir honte de l'Évangile. Car sa puissance est aussi forte pour le salut de ceux qui croient que lorsque la création a eu lieu. C'est la même puissance, lorsque Dieu a parlé, la chose a été. C'est cette même puissance-là qui est à l'œuvre lorsque nous osons parler ou lui parle directement au cœur et qu'il renouvelle des vies. C'est cette même puissance qui est en jeu. Que ce soit pour nous encourager mutuellement ou amener des âmes au Seigneur, n'ayons finalement pas d'autre prière que cette parole monte au cœur des enfants, des hommes, des femmes, pour que cette parole entame son processus de vie éternelle. Donc mettons-nous donc au service de cette parole vivante pour qu'elle prenne corps dans notre cœur. Que tous ces terrains-là qui sont quelquefois encore en marge, mal exploités, eh bien, que soit ce terrain soit puisse être vraiment purifié et que globalement nous élevons aussi nos voix sans contrainte, sans reste, tant pis pour l'odeur que l'on manifeste. Mais il faut que cette odeur apporte la bénédiction, apporte la vie. C'est vrai que le fumier, ça sent pas bon, mais pensons à ça, à cette grâce de Dieu qui est là, qui malgré nos craintes, puisse se manifester, puisse donner cette vie. Parce que ce que le Seigneur vraiment a fait de nous, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'inouï. Je vous laisse ce dernier verset dans 2 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Alors c'est Paul qui écrit ça, hein. C'était son ministère et c'était sa gloire aussi. Mais cette lettre de Christ, écrite non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alors vraiment que cette parole, vraiment, on s'en imprègne, que cette parole, on désire faire corps avec elle, qu'on désire vraiment nous immerger totalement dans cette parole, pour qu'elle puisse faire cette transformation. Et que pour nos, quelque chose peut-être qu'on a du mal à entrer, parce qu'on voit bien sûr aux apparences, mais on a du mal, hein, c'est toujours le verset là, ouais. Qui est là et qui résonne tout le temps, mais que cette parole puisse vraiment continuer à faire cette œuvre dans notre cœur. Et que ce soit en bénédiction aussi à tous ceux à qui nous parlons, à qui nous témoignons.
Merci Pierre pour ces, je ne vais pas dire pour ces rappels, mais pour ces appels et pour la suite de notre interpellation. J'aimerais partager avec vous les annonces. On a une semaine, j'ai envie de dire, à la fois peu chargée, mais à la fois importante. Mardi, études bibliques pour les aînés, 14h30, À 20h, on a notre assemblée générale. C'est un temps important, c'est l'assemblée générale officielle de l'Église. On vous invite vraiment à y participer. Si vous n'êtes pas membre, vous êtes les bienvenus. Vous n'aurez simplement pas le droit de vote, simplement. En tout cas, vous y êtes les bienvenus pour venir aussi discuter et partager les projets, les enjeux de l'Église. Je rappelle que c'est à 20h. Je vous rappelle aussi que si vous êtes membre et que vous ne pouvez pas venir, c'est très important de faire passer aux anciens un pouvoir. Vous avez reçu ça pour le faire passer. Donc, n'hésitez pas qu'on puisse atteindre le quorum et faire notre assemblée générale normalement. Alors, invitation vraiment à tous de prendre ce temps. C'est à 20h et non pas à 20h30 comme le reste de nos réunions. Et jeudi, la chorale. Samedi, groupe de jeunes. Et dimanche, avec plaisir, notre culte de nouveau. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces pour cette semaine? Non. C'est bien, on n'a rien oublié cette fois. Super. Pensons pendant cette semaine à prier pour les personnes qui sont souffrantes, qui sont fatiguées. Je vais vous donner quelques listes de personnes. Pensons à Brian et à Hélène. Hélène va mieux, elle se retape. Ils vont venir d'ici une quinzaine de jours ici au Pays de Gex. Brian assurera le culte le 2 mars ici. Donc on veut se réjouir aussi de les réaccueillir. Pensons à Guylaine et à Jacques aussi qui sont fatigués. Guylaine a été blessée donc a été hospitalisée aussi un petit peu de temps, il doit se reposer. Didier est parmi nous, mais cette semaine il a eu aussi des problèmes. Voilà, je te resituais plus là, vu du côté c'est pas pareil que vu de devant. Il a de nouveau eu des problèmes et nous en a fait part. On veut se réjouir parce que c'était, on va dire, des alertes qui étaient plutôt fausses qu'autres, mais on veut se réjouir aussi de ce que Dieu l'a gardé. Continue à prier pour qu'il préserve sa santé. Continue à penser à Rachel également. Voilà, c'est des personnes importantes que pour nos prières aussi. Pensons aussi aux baptêmes qui auront lieu le mois prochain. On veut vraiment se réjouir. Je crois qu'on peut annoncer que Pierre et Thérèse se feront baptiser déjà. Et puis, on espère qu'il y en aura d'autres encore. En tout cas, n'hésitez pas à venir en parler aux anciens si vous êtes intéressés, si vous avez envie d'en discuter. Voilà, beaucoup de sujets de prière. Si vous ne venez pas à l'Assemblée Générale, priez aussi pour cette réunion. C'est important. Voilà, je vous invite à vous lever, je vous lirai encore juste quelques versets. Oui, bien sûr. Ah oui, Emmanuel, bien sûr, je l'ai oublié. C'est ma faute, 100%. 100%.
Tu peux juste mettre... Voilà, alors ça, c'est... On a eu une bonne nouvelle la semaine passée, on a su la date et surtout qu'on pouvait avoir la salle Gaston Laverrière. Et cette semaine, on a eu une autre bonne nouvelle. Il y a l'homme qui est au fond là, qui s'appelle Pierrick, qui a bossé toute la semaine, mais toute la semaine, pour faire marcher le site. Et je vous garantis que c'était un vrai casse-tête pour lui. Il a tout préparé, tout marchait. Et samedi, on a décidé de lancer pour que tout le monde puisse s'inscrire. Au dernier moment, il me dit, il y a un problème, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche plus. Donc, je peux vous dire, il a dû choper des cheveux blancs, non, je crois que ça va encore, cette semaine, mais il a fait un boulot fantastique. Alors maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que maintenant, on connaît les dates, on a la salle, on a le site internet, vous pouvez tous vous ruer dessus, ça ne le fera pas tomber, pour vous inscrire. Vous pouvez inscrire vos enfants. Vous pouvez faire passer le message, on aura des flyers, il y en aura tout plein, vous pourrez distribuer, mais surtout on a besoin de bénévoles. Et quand je dis bénévoles, je parle de tout le monde. On a besoin de moniteurs qui doivent s'engager toute la semaine, d'aides-moniteurs, c'est des enfants, des jeunes de 15 à 18 ans, des gens pour la prière et l'intercession. C'est bien de vous inscrire sur le site, allez sur le site de l'Église, comme ça on a vos coordonnées et pendant le camp, avant le camp, on peut vous envoyer un email, ah là on a un sujet de prière, prières, on a besoin de vos prières pour ce sujet. Donc c'est important, même les personnes âgées, si vous voulez participer, inscrivez-vous, prière, intercession, c'est le truc le plus important, donc on a besoin de gens qui s'investissent pour ça. La mise en place, on a besoin d'arbitres, on a besoin des gens pour organiser les goûters, pour les jeux, la louange, atelier bricolage, le nettoyage à la fin du club, c'est les gens qu'on ne voit pas, c'est super important, l'infirmerie, chorégraphie, enseignement, garderie, peu importe, je suis à disposition, ça c'est très important. Préparation du repas des bénévoles, préparation de l'apéritif de clôture. Donc voilà, je m'arrête là. Et il y a aussi des cases pour les commissions. C'est des gens qui vont prendre en charge pour l'organisation. Parce que ce qui est important, c'est plus vite on le sait, mieux c'est. Il ne faut pas s'inscrire une semaine avant le club, ça ne servira à rien. Donc allez-y, inscrivez-vous maintenant. C'est quelque chose d'enrichissant pour tous ceux qui participent, et puis aussi un moyen de pouvoir témoigner dans notre village de Prévesin. Voilà.
Merci. Alors en fait, j'avais oublié de faire l'annonce, parce que c'est tellement mieux quand c'est toi qui l'as fait. Mais... voilà, alors vous pouvez vous lever. Je vous lirai ce qu'on trouve à la fin de la lettre que Paul, justement, écrivait aux Thessaloniciens. Ça va dans le sens de ce qu'on a entendu sur l'amour ce matin et sur l'importance de la parole. Et il y a quatre fois que le Seigneur à la fin de cette épître, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous tous. Amen.